Rainville PM. La voix est libre.
Ben, écoutez, il y a toutes sortes d'interprétations. Alors, pour revenir là-dessus, mais une chose est certaine, est-ce que c'est une erreur de bonne foi ou s'il y a eu d'autres choses? Mais de toute façon, le résultat est là. Il est devant nous. Je pense qu'il faut passer à d'autres choses.
Voici Luc Lavoie.
Salut, Luc.
Salut, Bernard.
Alors, on est en Facebook Live, comme c'est maintenant notre habitude. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, tu commences par... c'est quoi? C'est une bonne nouvelle pour toi, le résultat, ou est-ce que c'est le processus?
Non, c'est pas tant le résultat. Là, à mon avis, c'est pas ça. C'est le processus lui-même. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé.
Mauvaise nouvelle, là, ça.
Ben oui, c'est une mauvaise nouvelle. Ben, c'est pas que ça a été vers le PQ. C'est pas du tout ça qui est mon argument pour dire que c'est une mauvaise nouvelle. C'est que j'ai jamais vu une pareille bizarrerie dans un comté. Soit que c'est de la pure incompétence, ou erreur humaine, appelons ça comme on veut.
Oui.
Ou alors, on est de retour à l'époque des télégraphes de l'Union nationale. Tu sais, écoute bien, là, 194 voteurs dans la fameuse boîte 61.
Ouais.
OK? Et puis, aucun vote au Parti québécois, aucun vote à la Coalition Avenir Québec, aucun vote à qui que ce soit, 194 votes candidat libéral.
Ça, c'est comme dans le temps je dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais dans le temps de l'Union nationale, ils remplissaient les boîtes de vote avant que le monde aille voter.
Hein? Ils niaisaient pas avec ça.
Non, écoute, tant qu'à gagner une élection.
La grande époque des télégraphes. Ce qui m'amène à je vais le faire brièvement, te raconter une blague que M. Mulroney aimait raconter. Lui, il est en politique depuis qu'il respire, tu sais. Alors, dans les années 60, quand il pratiquait le droit à Montréal, donc l'élection de 66, quelque chose comme ça, il me parlait de la méthode des télégraphes de l'Union nationale.
Oui. Alors explique, c'est quoi un télégraphe? Oui, c'est ça.
Un télégraphe, c'est un faux vote, c'est pas compliqué.
Un télégraphe, c'est quelqu'un qui se promène et qui se fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas, qui va voter au nom d'un mort, par exemple.
Ou de quelqu'un qui n'a pas voté.
Voilà.
Alors, les scrutateurs, t'es en place, tout ça, puis là, t'avais des gars qui se présentaient, des bénévoles, OK? Puis eux autres, leur job, c'était à partir de 7h15, parce qu'il restait 45 minutes de vote, d'aller faire les fameux télégraphes. Et la façon qu'ils fonctionnaient, c'est qu'ils écrivaient ça dans leurs mains avec un stylo. Alors, moi, mon nom, c'est Gilles Saint-Amand, je suis menuisier, OK? Puis là, il arrivait au point, puis il regardait, puis il y avait des clins d'œil qui se faisaient, tout le monde savait ce qui était en train de se passer. Il y en a un, parmi ceux-là, que M. Mulroney aimait décrire comme une espèce de taupin, un vrai pur laine canadien français, bâti.
Joe Monferrand.
Un gros tof.
Ouais.
Lui, il donne comme nom Lee Ching-Wan. Alors, il écrit ça, lui, dans sa main, Lee Ching-Wan. Ça fait qu'il arrive au bureau de votation, votre nom, dit Lee Ching-Wan. Oui. Le scrutateur trouve ça un peu gros, fait qu'il dit... Votre profession, parce qu'il avait le droit de demander la profession.
Okay.
Profession. Il rouvre sa main, il regarde, puis il se rend compte qu'il avait oublié de l'écrire. Ben, il dit, je suis chinois, moi.
Je pensais que tu étais pour dire, le scrutateur, il a dit, comment vous appelez ça? Comment vous appelez votre nom?
Mais pour revenir à ça, écoute, c'est pas un swing ordinaire, là. Le soir du vote,
ouais.
Monsieur...
Boulay.
Comment s'appelle-t-il?
Alexandre Boulay, ouais.
A gagné, lui...
132
votes.
Ouais.
Après le recomptage,
ouais.
C'est la madame qui s'appelle Perry-Mélenchon, Mégane Perry-Mélenchon,
ouais.
Qui, elle, gagne avec 173 voix.
Ah non, 41.
Avec 41, t'aurais
excusé. 41, c'est l'écart.
L'écart entre les deux. Oui, c'est ça. Donc, 173, c'est le swing.
Oui, c'est le swing.
Et m'a dit, c'est tout un swing, ça, là?
C'est tout un swing.
Puis, dans le cas de la boîte 61, là, qui a eu 194 votes au candidat libéral, ce qui est arrivé, c'est que le Parti québécois a dit, ça n'a pas de bon sens. On avait des pointages qui étaient très crédibles, fait qu'ils ont rappelé des gens qui ont été votés, puis ils ont dit, êtes-vous sûr que vous avez voté pour le PQ? Puis quand ils en ont eu contacté 3-4, ils ont dit, bien écoute, ça n'a pas de bon sens, là, votre affaire.
Non, mais il y a du monde qui ont même été prêt à signer un affidavit pour dire, j'ai voté PQ dans cette section de vote-là. C'est un vote péquiste que j'ai mis dans la boîte. Exactement. Dites-moi pas que c'est un vote libéral, c'est un vote péquiste.
Alors, si ce n'est que pour l'intégrité du processus, l'enquête que vient de déclencher le directeur général des élections est d'une très grande importance. Il faut savoir ce qui est arrivé là.
Je suis bien d'accord.
Écoute, on ne peut pas se retrouver là, à l'époque de Maurice Duplessis puis de Lee Ching-Wan, là, je sais pas.
Oh, c'est une bonne histoire. Hein? C'est une bonne histoire. Alors c'est parce qu'il y a aussi le fait que c'est une élection qui est lourde de conséquences.
Ben oui.
C'est lourde de conséquences pour plusieurs raisons.
D'abord, le PQ reprend sa place.
Le PQ rejoint QS au niveau du nombre de députés. Ils en ont chacun 10.
Il les dépasse de quelques pourcentages.
Et voilà. Donc, ils deviennent le troisième parti à l'Assemblée devant Québec solidaire. Donc, c'est une élection importante pour ça. D'autre part, avec le départ de Couillard dans Roberval, de Philippe Couillard dans Roberval, et la défaite du libéral Boulay dans Gaspé.
Il se retrouve à 30, hein?
Il se retrouve à 30. Moins Guy Ouellet, il se retrouve à 29. Guy Ouellet qui s'en va comme indépendant. Mais j'allais dire, avec la défaite dans Gaspé puis le départ dans Roberval de Philippe Couillard, il ne reste plus un libéral à l'est de Saint-Lambert, sauf dans Jean Talon avec Sébastien Proulx à Québec.
C'est quelque chose, hein. Quand tu prends la carte, là,
hey, c'est
bleu, 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 bleu. Deux teintes de bleu, oui. Mais principalement pâle.
Exact, exact.
Le bleu foncé étant réservé au PQ. D'ailleurs, tu portes un chandail marine aujourd'hui ou non?
Je porte souvent un chandail marine.
Alors, tu vois, c'est la couleur du PQ. Mesdames et messieurs, si vous êtes sur Facebook Live, vous allez voir que Bernard Drainville est incapable.
La mauvaise foi de Luc Lavoie se manifeste à nouveau. Alors,
mais blague à part, c'est important, cette affaire-là. C'est
vraiment important. Oh non, mais là, il a annoncé qu'il allait faire enquête, le directeur général.
Oui, l'enquête est formellement déclenchée. Ils veulent pas en dire davantage combien de temps va durer l'enquête, mais tu parles d'une situation bizarroïde, là.
On s'entend.
C'est incroyable.
Alors, on s'est dit, Luc, qu'on n'allait pas faire trop long pour notre premier bloc, parce que au retour, tu vas nous donner ta bonne nouvelle, et on peut le dire tout de suite, c'est quoi ta bonne nouvelle?
Il y a 25 ans, on fêtait la vraie affaire.
Oui, mon ami.
La Coupe Stanley.
Yes, sir. La Coupe Stanley. Et là, on s'est dit, on va aller à la pause. Luc va nous dire les souvenirs qu'il en a, qu'il en garde. Moi aussi, peut-être un petit peu. Mais on va surtout vous demander vos souvenirs, vous, de la dernière Coupe du Canadien en 1993. Où est-ce que vous étiez? Le joueur que vous aviez préféré, c'est quoi que ça évoque pour vous là? C'est un moment spécial ça pour vous, la dernière Coupe Stanley du Canadien? 790-9850 dans un instant.
Drainville PM, la voix est libre.
17 secondes maintenant, c'est chose certaine. Le Canadien qui remporte sa 24e Coupe Stanley de son histoire. Et victoire du Canadien de Montréal!
Voici Luc Lavoie.
Écoute, j'en ai des frissons. Je l'ai écouté il y a un instant avec Paul Oud. J'en ai des frissons, Luc. On a tellement hâte à la 25e, là. Pourquoi on tripe autant? Pourquoi on a tellement aimé ça? C'est-tu parce que ça faisait de nous un peuple de gagnants? C'est-tu ça?
C'est tous ceux qui ont analysé l'émeute de Maurice Richard parlent du moment où le nationalisme a pris son envol.
Ouais.
C'est parce qu'on avait un des nôtres qui gagnait contre... Ouais. Et il faut bien le dire, c'était l'époque. On gagnait contre les Anglais, tu comprends?
Ouais.
Et là, qu'est-ce qui arrive? Moi, je regarde la liste des joueurs qui a gagné il y a 25 ans. C'est la première affaire qui frappe. T'as même pas besoin de faire un dessin. Il s'appelait Jesse Bélanger, bon, Brian Bellows, Patrice Brisebois, Benoît Brunet, Guy Carbonneau, Vincent Danfousse, Jean-Jacques Daigneault, Éric Charon, Frédéric Chabot, Éric Desjardins, évidemment Patrick Roy. Écoute, c'était Donald Dufresne.
Demers comme coach, puis Serge Chavard comme directeur général.
Voilà, Stéphane Lebeau. C'était une équipe classique des Canadiens de Montréal qu'on appelait ailleurs dans la Ligue nationale. Ils les appelaient de Flying Frenchmen.
Exact.
Alors, ça a été bâti par Serge Chavard sur le modèle classique que nous autres, on est le foyer des Canadiens français, puis on va jouer au hockey ici à Montréal mieux que n'importe qui.
Ouais.
Et là, depuis ce temps-là, là, on se tapine si tu trouves un joueur ou deux par-ci, par-là, jamais des grandes vedettes.
Qui parle français
dans la place. Puis sais-tu quoi, on perd tout le temps. Parce que moi, je pense... On perd tout le temps. Écoute, on perd tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. En 93, Savard gagne la Coupe Stanley pour la deuxième fois sous sa gouverne.
Hey, tu m'aurais dit en 93, la prochaine fois, là... Ben non, en fait, je peux même pas dire ça. 25 ans plus tard, en 2018, vous n'aurez toujours pas gagné à 25e. J'aurais dit, tu fous, toi? Tu battes chez le bonhomme?
Ben voyons, non, on n'était pas capable de vivre avec ça. La seule idée d'y penser nous donnait de l'urticaire, voyons
donc. Ben voyons, toi.
On avait gagné 4 à la fin des années 70. Ça n'avait pas de bon sens. En 95, ils ont sacré Serge Savard à la porte, puis depuis ce temps-là, on descend vers l'enfer.
Bon.
Alors, je vais te dire une affaire, mais qui a oublié, moi, mon moment, là, tu sais, quand Jacques Demers, qui va être là sur la glace ce soir...
Il va être là?
Oui, il va être là.
Ah,
ça va être extraordinaire.
Ben oui.
Quand il y a eu le culot, pour ne, comment dire, le guts, je sais pas quel mot employer, de faire mesurer le bâton de Marty McSorley, hein, parce que la courbe était trop prononcée, puis qui a obtenu une punition de 2 minutes. La punition de 2 minutes a permis à Éric Desjardins de la mettre dedans, puis d'égaliser, puis d'aller gagner en supplémentaire. Écoute, ce sont des moments comme ça, là, tu sais, si Demers s'était trompé, c'est lui qui prenait la punition.
C'est clair, c'est clair.
C'était ça qui était le règlement.
Puis si je me trompe pas, là-dessus, là, corrigez-moi si je me trompe, mais si je me rappelle bien, là, Carboneau a déjà raconté cette affaire-là, parce que c'est Carboneau qui l'avait vu, la courbure.
Oui.
Puis si je me souviens bien, Carboneau a dit... On se gardait ça. On n'était pas sûr qu'on allait l'utiliser, mais on avait remarqué, puis les joueurs, ils jouent avec plusieurs bâtons de hockey. Hein?
Oui,
fait que ça veut pas dire que le bâton que tu as vu avec la courbure trop prononcée ou que tu penses trop
prononcée... Ça dépend des situations de jeu.
Ça veut pas dire que c'est le même bâton qu'il va avoir en troisième période
exactement,
à la fin de la game.
Exactement.
Mais si je me rappelle bien, Carboneau a dit on l'avait comme mis dans notre petite poche. Puis on attendait de voir si on allait s'en servir. Puis à un moment donné, on a décidé, on a joué cette carte-là.
Ouais, ça prenait un certain courage pour le faire.
Le courage, je pense, c'est ça le mot.
Ouais,
ça prenait...
Demers, c'est un coach qui n'était pas comme les autres. C'est-à-dire que je pense qu'au plan technique, il était pas si bon que ça.
Correct.
Mais c'était un motivateur.
Ah,
mais un motivateur.
Inspirant. C'était un gars qui inspirait les joueurs.
Ouais, tout à fait. Puis tu sais, tu te souviens qu'il allait briller à Sainte-Anne-de-Beaupré pour
allumer des lampions. Alors, Christian est là. Christian, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça vous rappelle?
Ben, écoute, moi, j'étais là le soir même. On était jeunes, on était fous. On avait décidé d'acheter des scalpers. Des billets dans les rouges, on avait juste un disponible. J'ai payé 1 000 $. Deux de mes amis ont payé 500 $ dans les bleus. Et savez-vous pourquoi? On était presque prophétiques. J'ai dit, la prochaine fois que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley, on va avoir des cheveux blancs et on va peut-être être mort. Et c'est en train de ce qui est arrivé. Et puis, messieurs...
Mais vous n'êtes pas mort, là!
Non, mais j'ai 60 ans, puis il m'en reste pas gros avant que je puisse voir les Canadiens puissent se promener avec la Coupe Stanley sur la glace. La preuve que j'étais là, c'est que la Coupe Stanley en personne, elle ressemble à l'argenterie de ma grand-mère. Elle est moins brillante qu'à la télé. Puis une autre petite anecdote, c'est qu'à 5 secondes de la fin, mon ami avait un gros masque de gorille en caoutchouc. Il l'a lancé en plein milieu, c'était devenu hors contrôle. Tout le monde lançait des affaires, il restait 5 secondes, l'arbitre il a tout arrêté parce que c'était fini. Et puis, messieurs, n'oubliez pas aussi que ça a dérapé hein, aussi en sortant, là, les gens sautaient sur des autos de police.
Ah oui, il y a eu le côté ça, des émeutes.
Écoutez, je suis sorti de là, je me suis dit, ça devait être ça, la Révolution française, l'espèce de clameur là dans la bruit qu'on entendait jusqu'à la rue Berry. On a vu des gens sortir avec des saxophones. Ça avait complètement dérapé le soir même. En tout cas, mon cousin qui sautait sur des autos de toilettes, veux-tu te calmer? J'ai reçu une bouteille de bière sur l'épaule. En tout cas, c'était quelque chose.
Moi, j'étais pas sur place, mais je vais l'avouer, j'ai versé quelques larmes de joie. Je n'en revenais pas.
Oui.
Cette victoire. Merci.
C'était magique. Merci, messieurs.
Merci, Christian. Bravo pour l'investissement. Ça valait la peine. 1 000 $ pour gagner la coupe, là, ça vaut la peine. Marcel, bonjour.
Oui, bonjour, M. de Gagnon. Mon nom est Marcel Bélanger.
Oui.
C'est moi qui a remplacé Claude Mouton. Claude Mouton est décédé le 30 mars 1993.
Oui.
Et moi, j'étais là déjà depuis 1984. Je le remplaçais assez souvent parce qu'il devait s'absenter assez souvent.
Vous étiez l'annonceur... Attendez un peu, là, Marcel. Marcel, vous étiez l'annonceur le soir de la victoire?
Exactement, voilà. Oui.
Fait que c'est vous qui disiez le but marqué par la punition accordée. C'est vous, ça?
Exactement, c'est ça.
Ah ben, j'ai mon voyage. Comment vous avez vécu ça, vous, cette partie-là?
Ben, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel, hein? Surtout là, le fait que c'est moi qui étais l'annonceur à la maison. Je pense que c'est déjà là, c'est un exploit, si on veut. Ben. Que j'étais là depuis 1984. Moi, le fameux Vendredi Saint contre Québec, c'est moi qui étais là, comme l'annonceur maison.
Ah
ah. Oh boy, vous en avez annoncé des punitions ce soir-là, vous?
Mais vous allez être d'accord avec moi pour dire que l'ancien forum, là, je veux pas faire dans la nostalgie trop, là, mais ça avait une atmosphère pas mal différente de ce qu'on connaît maintenant. On avait l'impression que le toit allait lever. Tu sais.
Oui, exactement, c'est vrai. Puis, je sais pas, dans l'ancien forum... Je ne vais pas dire qu'il y avait un allée là, tout le tour de la patinoire. Hein. Je ne sais pas, c'était différent.
Hey, Marcel.
Moi, j'aimais mieux ce temps-là.
Marcel, enfin, me semble quand on est là puis on gagne la coupe, là, on a juste le goût de couper un petit morceau de glace, de le mettre au congélateur, d'aller y toucher une fois de temps en temps, de le mettre dans notre verre de scotch une fois de temps en temps, de s'en garder toujours un petit peu, ou aller couper un bout de filet puis garder ça au... Hein, non?
J'ai pas découpé de glace, mais après le match, j'étais dans la chambre des joueurs avec les joueurs. J'ai même des photos chez moi là, avec quelques joueurs de l'époque.
Quel beau souvenir.
Ouais. Ouais, ah ouais, c'est...
Comment oublier Patrick Roy qui arrêtait tout,
ben tout, oui.
Tout.
10 matchs en prolongation. Hey Marcel, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est vraiment chouette, ça.
Merci, M. Dreville. Merci, et vous, M. Lavoie.
Merci,
salut, salut. Ah, Juraj. Ah ben, Juraj. Oui. Bonjour, Juraj.
Bonjour, M. Dreville. Moi, en 1993, j'avais 11 ans. Mmh. Et puis, on venait d'une famille quand même modeste. Et puis, mon père, il m'attendait le lendemain de la victoire de la Coupe Stanley avec une casquette de la Coupe Stanley qui valait 25$. Et je n'en revenais juste pas parce que mon premier réflexe était de savoir, de demander qui lui avait donnée. Et puis, il dit non, je t'allais te l'acheter pour toi parce que je savais que ça allait te faire plaisir. Puis, je l'ai encore, cette casquette-là.
Merci, Juraj, pour l'appel. Ça, je vais te dire, Luc, je le disais à Paul il y a un instant, là. Moi, là, la première raison pour laquelle là, j'ai hâte qu'on gagne une 25e coupe, là, c'est que j'ai hâte de partager ça avec mes enfants. J'ai hâte
qu'ils comprennent pourquoi on est fous comme
oui,
ça.
Oui, qu'ils connaissent ça, la coupe. Tu sais, puis c'est tellement... Le sport, je ne sais pas pour toi, mais moi, le sport, ça a été une bonne façon pour mon père et moi de se rejoindre. Puis c'est un peu la même affaire avec mes enfants. Le sport, c'est
unificateur pour tout le monde qui est impliqué.
Il y a une connexion qui se fait grâce au sport. Absolument. Puis dans ces moments de grande intensité comme une Coupe Stanley, il y a une espèce d'excitation puis d'intensité puis de communion qu'on...
Puis d'ailleurs, la ville de Montréal se transforme à mesure qu'on approche du but. Là.
C'est vrai. Avec
puis là,
les...
tu sens que tout le monde est heureux. Puis dans les restaurants, ça sourit.
Les drapeaux! Puis là, après, accroché après voiture.
Puis là, il y a plus d'ethnie, puis il y a plus de langue, il y a plus rien. Tout le monde est dans les Canadiens de Montréal. On va dans les Canadiens de Montréal.
C'est tellement, tu as raison, c'est très rassembleur. Très rassembleur.
C'est probablement ce qu'il y a de plus rassembleur.
Clément, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Moi, je suis dans le taux, là, si le son marche, vous me le direz. Mais en tout cas, moi, je voudrais vous raconter parce que j'étais là le soir de la Coupe Stanley, justement. Mmh. J'avais mes billets sur le bar de la bande. C'était extraordinaire. Et puis, ça donne que le soir, après quand la victoire était faite, il y a quelqu'un dans l'équipe du Canadien que je connaissais bien et qui me fait signe, viens fêter ça avec nous autres. Ça fait que là, je m'en vais dans la chambre des joueurs et j'ai heureusement eu une photo avec Patrick Roy et puis la Coupe Stanley dans mes mains et puis j'ai pu fêter ça avec eux autres. C'est un souvenir extraordinaire que
j'imagine.
Je pourrais
jamais oublier. Aïe, aïe. Ouais.
Ça, c'est quelque chose.
Hey, fait que vous avez goûté au champagne ou même peut-être que vous avez encore un petit peu de sueur de Patrick Roy quelque part sur un bout de T-shirt.
Oui, c'est ça. En plus, c'est que j'ai pensé pas que je l'ai manqué parce que Patrick Roy prenait des photos avec tout le monde. Là, à un moment donné, il dit à son père, ce qui était à côté de lui, il dit, bon, mais là, c'est la dernière photo, là, j'en prends plus, là. Mais là, son père se compte à côté de lui, il dit, moi, j'en ai une avec Clément Parteau, d'accord, au moins, il y a encore une. Il n'a pas qu'un cheveu de la manquer. Et là, Patrick a dit, d'abord, si son père lui demande, il a dit à Patrick, je vais en prendre une pareille. Ça fait que j'en ai une avec Patrick Roy. Fait que je vous avoue, c'était un souvenir extraordinaire pour moi.
Ben, je comprends. Merci, Clément, pour l'appel. Alors, quelques textos. Le clin d'œil de Patrick. Mon plus beau souvenir, ça ça a marqué l'histoire du sport.
Puis c'est qui avait pris la photo? C'était pas le père de Brodeur qui avait pris cette photo?
Ça se peut, ça.
Parce que c'était toute une photo, parce qu'à travers le masque, le grillage, tu voyais bien comme il
puis
faut.
Mais il y avait aussi un bon caméraman. Parce que rappelle-toi, il y a aussi une vidéo de vois le joueur des Kings qui passe devant, dans le champ de vision de Roy. Tu le vois esquisser son sourire puis faire le clin d'œil. Hey, toi là. T'es pas capable de la passer. Ah, c'était
un gagnant.
Voilà.
C'était un vrai de vrai winner.
Un guerrier gagnant.
Ah ouais, il pouvait pas vivre avec la défaite. C'est ça qu'on veut avoir encore à Montréal.
Ben oui. Il y en a un autre, Pierre-Luc, qui nous écrit, dit, j'ai un chandail blanc, puis un chandail rouge du Canadien, les deux signés par toute l'équipe de la dernière coupe.
C'est ça, tu t'en souviens. Je pense que je vais le... Monsieur, Je vais les acheter.
Ça, tu lègues ça en héritage.
Ah, bien sûr.
Il hein, faut que ça reste dans la famille. Bon, ben Luc, on s'est bien amusé. En espérant qu'on vivra la 25e coupe, toi et moi, avant de passer de vie à trépas.
Si tout fonctionne bien, on ne gagnera pas quand même.
Arrête donc. Oh non, faut rester optimiste. Alors, à demain, on s'arrête. Au retour, on va reparler à notre entrepreneur. Vous savez, celui qui travaille 115 heures par semaine. Le propriétaire de restaurant, là, on y a parlé, il cherche du monde. Il y a quelqu'un qui a appelé, il dit « Je vais aller travailler ». Il a dit « OK, je te donne rendez-vous ». Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? On fait notre suivi après la pause.